Robert Pinel, je suis né le 8 août 1933 et je suis né dans la banlieue à Grenoble. D'une famille qui était assez impliquée dans la résistance, pas la résistance armée, mais dans la résistance sédentaire. Sauf que j'ai un beau frère quand même qui a été déporté à Dachau. On est venu avec ma femme habiter à Dachau à partir de 2001. Et comme je m'intéressais à cette période de la résistance, bon, j'ai tout de suite été intéressé par le maquis, disons.
Est-ce que avant de t'intéresser au maquis, disons, est-ce que tu t'étais intéressé à d'autres maquis ou d'autres actions de résistance?
Non, pas précisément. Je fais partie de cette génération de l'après-guerre qui s'est réintéressée à la mémoire de la guerre un peu tard et surtout à la retraite. Bon, à la retraite, on a le temps. Jusqu'à ma retraite, je n'ai pas le temps. Donc en 2008, j'ai pris l'initiative avec d'autres amis de créer une association qui s'appelle l'Association pour la mémoire de la résistance et de la déportation dans les Hautes-Baronnies. Voilà. Mais mon but principal, c'était dès le départ de m'intéresser surtout au maquis, disons, à la tragédie du maquis, disons, de la Bruisse. On a ajouté après le bombardement qu'il y a eu à Cédron, qu'on pense c'est une suite de disons, de la Bruisse. On n'en sait rien du tout, on n'en sait pas grand-chose. Et puis, il s'est trouvé que par la suite, j'ai découvert qu'il y avait ici, à Buis-les-Baronnies, il y avait eu le 21 mai 1944 une rafle de juifs que tout le monde avait oublié pour une raison simple. Il n'y avait pas un juif de la région. C'est tous des juifs de Paris, d'ailleurs, etc. Et après la guerre, les juifs ont pour des raisons, pour l'instant, je ne sais pas exactement, mais un certain nombre de juifs ont voulu oublier et donc n'ont pas entretenu la mémoire tout de suite. Il a fallu le film de Lanzmann sur la Shoah pour que, même moi, je savais qu'il y avait eu 5 millions de juifs massacrés, mais je n'en savais pas plus que ça, quoi. C'est le livre de Lanzmann qui m'a aidé à comprendre et à savoir.
Alors, avant qu'on approfondisse sur Maison la Bruisse, comment tu t'es intéressé au maquis ventoux après?
Je ne me suis pas beaucoup intéressé au maquis ventoux pour une raison politique.
Ah, d'accord.
Le maquis ventoux, c'est un truc très compliqué sur le plan politique. Et j'ai senti tout de suite qu'il valait mieux pas trop remuer. Hein. Par contre, le maquis, disons, de la Bruisse, j'avais moins de problèmes parce que personne n'avait jamais rien fait. On célébrait chaque année le massacre et il y avait deux, trois gars qui parlaient mais qui n'avaient jamais mis les pieds dans le coin. Et puis, les gens repartaient sans savoir en fait à qui on avait rendu hommage. Et quand on a sorti, j'ai fait un bouquin sur cette affaire-là, il y a des tas de gens qui m'ont dit mais on ignorait tout.
Et alors,
des gens du pays.
Avant qu'on lâche le maquis ventoux pour revenir à la maison, est-ce que c'est bien le lieutenant-colonel Bain qui est à l'origine?
Alors, à l'origine, c'est le capitaine Bain.
Capitaine.
Ouais. Alors, il a été créé à Sceaux.
Oui.
Les deux qui sont. Celui qui est vraiment à l'origine du maquis, c'est Max Fischer, un avocat juif du barreau de Paris. Qui donc en octobre 40, il est rayé du barreau de Paris et il s'en va. Et là, il est en liaison avec les gens de combat.
D'accord.
Et ensuite de l'armée secrète. C'est lui qui vient voir Ben à la fin enfin 42, pour lui proposer de créer un maquis. Alors pourquoi il vient voir Ben? Parce que Ben était le percepteur des impôts du coin. Donc il connaissait beaucoup de monde.
On va revenir au maquis de Lison, puisque c'est celui-là qui nous intéresse le plus.
Ouais. Alors le maquis de Lison, c'est le maquis Ventoux, mais qui a à l'automne 43, à la suite de différents avatars dont Ben est responsable, ils sont obligés de déménager, de quitter. Et ils choisissent, alors là je ne sais pas encore, je ne sais pas qui c'est qu'ils ont amené là, mais ils choisissent la région de Lison, parce que c'est un village perché, isolé, il n'y a plus personne, et ils sont persuadés que là, ils ont la sécurité la plus totale. La seule chose qu'ils ne savent pas, et que Ben est mort sans avoir compris, c'est que ceux qui les pourchassent à Sceaux, les Allemands, c'est la Brandebourg. Cette section de la Brandebourg, ils sont 60, dont 40 Français, qui sont tous désengagés dans l'armée allemande. Alors ça, c'est un truc dont je me suis aperçu tout de suite quand j'ai commencé, c'est que les gens qui avaient été un peu liés, qui étaient encore là, qui avaient été liés, il ne fallait surtout pas en parler. Et donc, quand ils déménagent à... ils ont la Bruce, il y a un service de renseignement qui fonctionne. Et ils arrivent, donc ils s'installent début novembre 1943. Dans le courant de novembre, il y a déjà un espion qui arrive. Alors, la Brandebourg qui est ici, il y a trois quarts de Français engagés dans l'armée allemande. Ils ne sont pas dans la même caserne que les Allemands. Les Allemands sont basés dans la base aérienne d'Orange. Les Français sont logés comme ça dans les hôtels, un peu à droite, à gauche. Et comme tous les Français sont des gens un peu bavards, hein, la préparation de l'attaque du maquis, disons, n'a pas été improvisée, ça a été préparé. Les Français se vantent qu'il va y avoir une opération. Et donc... Les gens de la résistance, de l'AS en particulier, dont dépend Ben, sont informés. Donc le maquis de Ventoux déménage à Lison au début novembre 1943. Il y a un premier gars qui vient déjà. Il vient jusqu'à Billy-Baroni. Et Billy-Baroni, il prend un bus. Est-ce qu'il sait, ne sait pas, que le conducteur du bus, propriétaire du bus, est dans la résistance? Je n'en sais rien. Mais il est très prudent. Il ne se fait pas tellement remarquer, sauf, comme il est venu pour espionner, il a l'œil. Dans le bus, il y a un jeune. Il s'approche de lui, il le fait parler. Il se trouve que c'est le petit voyou du maquis. Il s'était réfugié au maquis, parce qu'il a tellement fait du mal dans son village qu'il était parti. Et donc, le gars, c'est facile, il est français. Il parle français, même peut-être avec l'accent de provençal. Et donc, il a dû expliquer qu'il voulait rentrer dans le maquis Ventoux, dans la distance, le maquis, etc. Il a dû raconter une histoire. L'autre s'est pas méfié. Il a donné tous les renseignements. Et donc, ce gars qui parle, qui vient d'espion, il reste... Je ne sais pas combien de jours, on n'a pas retrouvé les documents là-dessus, mais il reste plusieurs jours, suffisamment pour savoir en gros déjà comment ça fonctionne. En décembre, quelques semaines après, il y a un autre gars qui vient, qui lui va directement, comme ils ont toutes les informations, il va directement à Lison, il arrive et il explique qu'il est, c'est un jeune, c'est vrai que c'est un jeune, et qu'il veut rentrer dans la résistance. Le gars ne lui pose pas de questions, rien du tout, tu rentres, hop. Et il sait qu'il y a ce jeune voyou, là. Il l'embauche. Est-ce qu'il lui dit la vérité? Il lui dit, on ne sait pas non plus. Il n'empêche que l'autre lui fait visiter tous les trois camps, les trois campements du. Et donc, il connaît toute l'organisation du maquis, y compris les points faibles, y compris le point fort qui est la base qui est dans la forêt là-haut. Il y a un repas, comment Ben fait un repas de Noël à Izon, où ce gars-là est invité. Il est pas, il est comme tout le monde, c'est un jeune camarade résistant. Et il est au repas, et au repas, il y a le gendarme Gamonnet. Et alors, ils ont tous ces renseignements. À la veille de Nouvel An, ils posent une permission, parce que ces maquis ont posé permission. Il n'y a aucun maquis dans toute la France où ça se fait comme ça. Ils posent une permission comme s'ils étaient dans une armée normale. Ils expliquent qu'ils vont au mariage de la sœur du gars. 15 jours après, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus, hein. On les raide. On ne cherche pas à savoir. Et en janvier ou février, ça, on n'a pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé. Il y a encore deux autres espions français qui viennent. Alors eux, ils montent carrément dans le village, à Igalay. Ils tournent dans les fermes. À l'époque, vous n'avez pas connu, mais moi j'ai connu cette époque. J'ai 11 ans, moi, cette époque-là. Donc, dans cette époque-là, je me souviens, avec mes parents, on prenait la bicyclette, on allait dans les fermes acheter 3 œufs, machin, etc. Quoi, voilà. Et donc, ils ont dû faire la même chose, se présenter comme recherchant du ravitaillement, et en même temps, ils ont dû parler de la distance. Vous ne connaissez pas, il n'y a pas un maquis par là. Vous connaissez pas. Les gens, ils font pas attention. Ils donnent des renseignements qu'ils ont. Et eux ont dû faire un repérage topographique. Ce qui fait que, quand dans la nuit du 21 au 22 février, ils arrivent à Igalay, à l'entrée d'Igalay, c'est environ 5h du matin. On a le compte-rendu allemand. Hein. C'est vers 5h du matin. C'est tout organisé. L'objectif, c'est... Il y a différents groupes. Chacun a un objectif précis. On ne fait pas n'importe quoi. C'est à 7h du matin, tout le monde attaque. Mais pas avant. Et ça a fonctionné comme ça. Ça a été la surprise.
Combien ont été tués? 34.
Le 22 février... Il y a 34 gars qui sont tués. On dit 35 parce qu'il y en a un, c'est Razoli. Alors ça, c'est Ben. À l'école, quand ils arrivent à l'école, les gars, ils sont en train de dormir. Hein. À part un, qui a un cas un peu spécial, mais à part un qui a entendu du bruit. Et parce que là-haut, à l'école, ils avaient un chien. Hein. Le chien... Il reconnaît les deux gars, l'espion et son copain. Et au lieu d'aboyer, il aboie comme ça, mais gentiment. Il accueille. Quand même, la sentinelle se rend compte qu'il y a quelque chose, parce qu'il entend le bruit, la sentinelle, il y a pas de mot de passe. Donc on va pas prendre des précautions comme ça. Il n'y a rien. Et donc, le gars, la sentinelle, qui est un jeune de Paris, il entend le bruit, il pose la question au gars, qui c'est, etc. Et il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose. Il tire, mais il est à personne, mais les autres ne le loupent pas. Il est tué sur place. Et les tirs de mitraillettes ne réveille même pas les gens qui sont à l'intérieur. Parce qu'ils ont fait la bringue, hein, la veille. Non, c'est une histoire terrible.
Comment a été tué Gamonnet?
Gamonnet, ça se passe, pour Gamonnet, ça se passe entre midi et 14h, 12h et 14h, à la gendarmerie de... l'ancienne gendarmerie. Là où on a mis la plaque, là, maintenant. Les responsables de la Brandebourg. Alors, partout où on vous écrit la Gestapo, etc., il n'y a personne de la Gestapo. Il n'y a que les gens de Brandebourg. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de... On n'a pas tué un seul innocent. On a tué des gens, mais les gars de la résistance, ce n'est pas des innocents, les gendarmes, bon. Mais on n'a pas tué quelqu'un, rien, rien. C'est pour ça que quelquefois on me dit, ah, tu prends la défense. Non, je ne prends pas la défense, je rétablis les choses. Donc, le jour du massacre, le 22 février, entre 12h et 14h, les responsables de la Brandebourg rassemblent tous les gendarmes et leurs familles à la caserne, dans le bâtiment de la gendarmerie. Et ils font venir le petit espion qui vient, mais avec un bandeau sur la tête, pour qu'ils reconnaissent les gens. Et ils le font passer devant tout le monde. Et Gamonnet, ils ne se trompent pas. Hein. La seule chose qui s'est passée à ce jour-là, c'est qu'ils auraient dû tuer aussi le chef de la brigade, qui était compromis avec Gamonnet. Mais le chef de la brigade a été nommé dans une autre brigade 8 jours avant. Et la Brandebourg n'a pas été prévenue. Autrement, on avait 2 gendarmes. Donc, il y a tous ceux qui veulent enjoliver. On raconte que Gamonnet était torturé. Ils n'ont pas le temps. Et puis, ils n'ont pas besoin de le torturer. Ils savent ce qu'il a fait. Donc, et puis, c'est pas, finalement, c'est pas, ça ne paraît pas le style des gens de la Brandebourg qui sont là. Et donc, ils le font sortir, ils l'emmènent vers l'église, et là, ils le fusillent, mais ils ne le fusillent pas de face. Ils lui tirent une rafale de matériel dans le dos. Alors, Gamonnet, c'était un jeune qui était rentré dans la gendarmerie à un moment donné pour ne pas partir au SCO. C'était une filière, ça, pour ne pas partir au SCO. Rentrer dans la gendarmerie, pour les jeunes. Il était en poste en Savoie. Déjà là, il avait des contacts avec la résistance. Et sa femme, apparemment, a joué aussi un petit rôle, mais bon.
Est-ce que tu peux nous parler du témoignage du seul rescapé,
Pascal? Ah, pardon. Alors, Laurent Pascal. Il est là-haut à l'école, il voit tout ce qui se passe à l'école, il descend. C'est un témoignage intéressant là-dessus. Il voit des choses. Le problème que je lui reproche, c'est qu'il n'a rien compris et pas essayé de comprendre. Parce que les Français qui sont engagés, qui sont là, n'ont pas une tenue militaire allemande. Ils ont une tenue des chantiers de jeunesse qui ressemble beaucoup à ceux de la milice. C'est pour ça qu'on dit toujours la milice. Il n'y avait pas de miliciens. Et donc, son témoignage est très intéressant, très important, mais ce qui est dramatique pour moi, c'est qu'il meurt en 2003, et quelques mois après, il a donné une interview à FR3. La dame qui a fait l'interview, elle était de notre association. J'ai eu la copie du truc. Il te raconte l'histoire comme il l'a raconté en juin 1944. Il continue à parler des SS, qui n'avaient pas de SS, les miliciens, qui n'avaient pas de miliciens, et puis ces deux camarades, ce camarade qui les a trahis. Quand il est mort en 2003, il n'a pas compris qu'ils ont été espionnés.